Chapitre 40. Constantin Brancusi lève le regard. Lors de la crise originelle qu'il avait figée dans le noir, Mona avait dû, à titre d'examen, s'enfermer dans un caisson afin d'y subir une IRM du cerveau. Or, en ce jour, il lui fallait recommencer l'expérience pour vérifier l'état de son tissu cérébral. Une fois allongée dans l'affreux tunnel de 2 mètres, Mona réalisa qu'on allait plonger dans sa tête. Cette vision cauchemardesque lui fit pousser un petit cri étouffé qui alerta sa mère. Camille prit sa voix calme. « Je suis là, Mona. Le caisson te protège, ne t'en fais pas. Il n'y en a pas pour longtemps. » Ces mots d'apaisement eurent un effet immédiat. La table où elle était allongée se métamorphosa en lit douillet et elle se laissa porter rêveusement par ce verbe « protéger ». Elle se le répétait jusqu'à y noyer sa pensée et au bout de quelques minutes se sentit partir, exactement comme chez le docteur Van Horst. Un des souvenirs qui lui était venu sous hypnose refit son apparition, beaucoup plus distinctement. « Cela te protégera de tout. » Tels étaient les mots de la grand-mère de Mona au moment où elle retira le séri de gommier de son cou pour le passer autour de celui de sa petite fille. Colette avait l'air fière, très résolue et un peu triste. Et Mona l'hallucina comme si elle était là, en face d'elle, sur le rebord d'un matelas dans sa chambre. Elle sentit même un baiser de sa part sur son front. Enfin, il y eut cette injonction. « Garde sans cesse la lumière en toi, ma chérie. » Cette phrase de Colette s'était faufilée dans les canaux du temps. Le message, incompréhensible pour la bambine de 3 ans qu'avait été Mona quand elle l'avait entendu, voilà qu'il parlait soudain à la jeune fille qu'elle devenait. « Quand est-ce qu'on se revoit, mamie ?» murmura l'enfant au cœur du caisson, prise dans son semi-coma. Il n'y eut pas de réponse. Il n'y en aurait jamais. Sortie de l'examen, Mona et Camille regardèrent les clichés noirs et gris du cerveau en compagnie d'une radiologue qui sembla presque euphorique de pouvoir leur annoncer que l'imagerie ne révélait rien de suspect. Camille serra fort sa fille qui serrait elle-même son pendentif. Entraînée dans cette spirale de joie, la radiologue remarqua d'un ton badin « Cela n'a aucun sens médical, ce que je vais vous dire. Mais je trouve ce cerveau magnifique. Il dégage quelque chose de radieux. D'habitude, on dirait une grosse noix. Là, on dirait plutôt une énorme pierre précieuse. » Mona haussa les épaules timidement. « Ça doit être votre inconscient qui vous fait voir ça, madame. » Camille sourit et ne trouva rien à ajouter. Mais le pédopsychiatre mystère, chez lequel l'emmenait son grand-père tous les mercredis, était décidément une pointure. Aux côtés d'un des énormes tuyaux qui faisait face à Beaubourg, en haut de l'esplanade, il y avait une charmeuse d'oiseaux. Des centaines de pigeons lui tournaient autour, se posaient à ses pieds, sur ses poignets, battaient des ailes à quelques centimètres de son visage. Henri, presque toujours hostile au spectacle de rue, éprouvait cette fois-ci un malaise et un écœurement tout particulier. Il décida de sublimer cette scène qu'il jugeait pathétique en expliquant à Mona que l'histoire avait conté de grands amateurs de volatiles. Au XIIIe siècle, saint François leur faisait même des sermons en les appelant « mes frères ». Mais Mona, fascinée par ce ballet aérien, écarquillait des yeux extatiques. « Regarde, Dadé, elle est le contraire d'un épouvantail !» Puisque sa petite fille voulait voir des oiseaux, songea Henri, autant lui en montrer un qui en soit la quintessence, celui de Constantin Brancusi. C'était une sculpture dont la forme longiligne d'une extrême pureté enflait légèrement dans son élan ascensionnel avant de terminer en pointe. À la fois frêle et sûre de sa force, elle se dressait sur près de 2 mètres de haut. Elle était d'un bronze parfaitement poli, réfléchissant la lumière. Un socle cylindrique dont le diamètre et la hauteur étaient approximativement de 15 cm lui servait d'assise. Pour être plus précis, la forme s'épanouissait en 2 temps depuis cette base. Il y avait d'abord un très fin pied conique subtilement incliné vers l'arrière qui ne faisait même pas le cinquième de la taille totale. Puis, au sommet de cette partie, la matière s'élargissait progressivement. Ce bombement donnait in fine l'impression d'un arc ou bien d'une flamme. Et pourquoi pas d'une plume? Le titre en était d'ailleurs « Oiseau dans l'espace ». Ce n'était pas exactement au musée que Mona et Henri regardèrent cette sculpture, mais dans un petit bâtiment attenant qui reconstituait l'atelier de Brancusi. L'atmosphère y était bien différente, car outre un florilège d'œuvres superbes qui semblaient s'engendrer les unes les autres, il y avait partout des outils. Maillets, ciseaux, gouges, rifloirs, burins. La profusion d'objets faisait écho au bric-à-brac du père de Mona. Elle en demeura bouche bée. « Brancusi, finit-elle par dire. C'est un nom que j'ai déjà entendu d'Adé. Un jour, il était avec Duchamp, et ils ont vu ensemble une hélice. Et ça les a beaucoup impressionnés. Duchamp, après ça, il a arrêté de peindre et il a mis le bazar partout.
C'est bien cela, Mona. Et tu vas voir que Duchamp a justement continué à mettre le bazar avec la sculpture que tu as sous les yeux en ce moment même. Je vais tout t'expliquer. Mais sache d'abord que Brancusi chercha toute sa vie la légèreté. L'essence du vol, c'était son obsession.
Comme Kandinsky et son cavalier bleu, comme Malevitch. Eux aussi, ils aimaient faire sentir ce qui est en suspension dans les airs.
Tu as raison.
Pour tout avouer, il me semble que l'histoire de l'abstraction en général est traversée par le désir d'arracher l'humanité à la gravité. Et ce désir a nourri de très vieux mythes.
On peut songer aux légendes grecques d'Icare ou du dieu messager Hermès.
C'est cela l'abstraction, un propulseur dans l'immatériel, au-delà de notre lourde condition terrestre de mortel. Moi, je voudrais m'envoler avec toi, Dadé, et que tu sois pour toujours mon professeur.
Laisse-moi te raconter ce que disait Brancusi à ce sujet. Il venait d'une famille très pauvre de Roumanie, des paysans qui vivaient dans une modeste cahute. Lorsqu'il eut 25 ans, il partit pour Paris afin de faire carrière. Et il parcourut toute la distance à pied, environ 2500 kilomètres, modestement muni d'un sac à dos et d'une flûte. Une fois en France, il fut très vite repéré par Auguste Rodin.
Ah oui, celui dont Camille Claudel était amoureuse, même s'il était beaucoup plus vieux qu'elle.
Oui, et comme elle, Brancusi a très vite saisi que s'il demeurait trop longtemps l'assistant d'un tel maître, il ne parviendrait pas à s'épanouir, à devenir original. Au bout d'un mois, il s'est dit « Rien ne pousse à l'ombre des grands arbres ». Alors il a quitté Rodin pour chercher sa propre voie. Et maintenant, revenons à notre oiseau dans l'espace. Il en existe de nombreuses versions élaborées à partir de 1923, en marbre, en plâtre ou en bronze. Celle-ci date de 1941. C'est l'une des plus tardives et des plus majestueuses.
C'est vrai, Dadé, que c'est incroyablement beau. Surtout que, quand on se déplace autour, avec tous les reflets, c'est comme si la sculpture était vivante. Mais raconte-moi l'histoire que tu m'as promise avec Duchamp.
En 1926, un des exemplaires en bronze de l'oiseau dans l'espace, très semblable au nôtre aujourd'hui, fut acheminé depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis en vue d'une exposition. Normalement, à la douane du port de New York, les créations artistiques n'étaient pas taxées lors de leur entrée sur le territoire. En revanche, on exigeait 40% de la valeur des objets manufacturés et des ustensiles divers. C'était une mesure de protection et de régulation commerciale. Théoriquement, en examinant l'oiseau dans l'espace, le douanier aurait dû considérer qu'il n'y avait pas de frais à payer puisqu'il s'agissait d'une sculpture. Mais il refusa de croire que c'en était une, et il appliqua donc la taxe de 40%. Avec cette décision de la douane, se reposait la même question que nous avons déjà abordée devant le porte-bouteille de Marcel Duchamp.
« Je sais, la question de savoir quand est-ce qu'une œuvre devient une œuvre d'art »,
compléta Mona à toute allure. « C'est exactement ça. » Et voilà pourquoi on retrouve Marcel Duchamp dans cette histoire. C'est lui qui pousse Brancusi à porter plainte contre l'État américain, afin qu'il y ait un procès et qu'un tribunal détermine s'il s'agissait ou non d'une œuvre d'art.
Et alors, Dadé, il a décidé quoi?
Patience. Tu vas d'abord essayer, toi, Mona, de me dire comment tu aurais défendu Brancusi, et moi, je vais argumenter pour l'État américain. » Tout excité par cette perspective, l'enfant se sentit transporté dans un palais de justice.
« Bien !» commença Henri d'une voix autoritaire. « Cet objet ne ressemble pas à ce que son titre désigne. C'est juste une longue forme effilée, dépourvue du moindre détail ressemblant à un oiseau, ça ? Mais enfin, où sont les plumes, le bec, les ailes et les pattes ? Il n'y a là aucune trace d'un travail de sculpteur. »
« Bien sûr que si, il y a un travail !» s'exclama Mona, happée par son rôle. « Oh, évidemment, très différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais un artiste, un vrai artiste, cherche à surprendre, à faire quelque chose de nouveau. Et cela demande énormément de travail de faire quelque chose de nouveau, parce qu'il faut penser autrement que tout le monde. La ressemblance avec l'oiseau à la limite, c'est inutile du moment que c'est beau. »
« Beau ? En voilà un drôle de mot, » rétorqua Henri. « Comment peut-on oser trouver ça beau ? Dans ce cas, le moindre objet en laiton fabriqué par un ouvrier pourrait prétendre à la beauté. »
« C'est vrai, »
concéda Mona d'un air roublard.
« Il peut tout à fait exister des objets industriels qui soient très beaux. L'hélice d'un avion, par exemple. Mais là, j'aime l'harmonie de cet oiseau. Et puis tous ses reflets dorés. »
« D'accord, mais pourquoi l'avoir appelé « oiseau dans l'espace » ? Cela aurait aussi bien pu être un poisson, un tigre ou un éléphant. »
« Parce que l'artiste donne l'impression d'un envol, grâce à cette tige bien verticale et sa pointe au bout. Et surtout parce que la partie basse est très fine. Et qu'ensuite, plus on monte, plus on voit l'énergie qui grossit. »
« Alors, » ajouta Henri d'une voix exagérément désolée, « je crains qu'on puisse dire que l'art traditionnel est perdu. »
« Mais il a le droit de continuer à exister, bien sûr. Seulement depuis quelque temps, il y a l'abstraction, il y a Malevitch, il y a Georgia O'Keeffe, et la sculpture aussi devient abstraite. L'art, ça change. »
Henri se tut cette fois-ci, et Mona eut sa moue dubitative. Son incorrigible humilité la poussait à se méfier d'elle-même et elle attendait le verdict avec appréhension.
« Alors, Dadé, qui est-ce qui a gagné ?»«
C'est toi, ou plutôt, c'est Brancusi. En novembre 1928, le juge rend son verdict. Il déclare qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à considérer l'oiseau dans l'espace comme une œuvre d'art. Les États-Unis ont donc perdu. » Il balaye en particulier le raisonnement selon lequel il faudrait qu'il y ait nécessairement une ressemblance entre ce que désigne l'œuvre et le sujet désigné. Pendant les audiences, les témoins qui ont défilé à la barre en faveur de Brancusi ont fourni des points de vue très similaires à tes arguments. Tu aurais été une avocate parfaite.
Tu sais, Dadé, si Brancusi voulait pousser comme un grand arbre et montrer ce qu'est un vol, c'est qu'il voulait toujours lever le regard, je pense. Lève le regard, Dadé, lève le regard.
Voilà, on y était.
Pour la première fois de sa vie, Mona venait spontanément d'extraire une leçon de ce qu'elle avait entendu, puis, en toute innocence, avait exhorté son grand-père à suivre celle-ci.
Henri comprit l'extraordinaire révolution qui était en train de s'accomplir. Il en eut le vertige.
« Lève le regard !»
répéta sa petite fille avec un enthousiasme contagieux. Le regard, il allait bel et bien le lever afin d'observer l'avenir. Aussi s'accroupit-il, attrapa Mona par la taille, se redressa et à bout de bras la souleva de toutes ses forces jusqu'au-dessus de ses épaules. Elle flottait dans l'espace comme un oiseau. Et ce fut vers elle qu'Henri Vuillemin hissa l'œil.